coup, j'ai évité que ça en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier.
Je suis anarchiste. Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur la plus rebelle des radios, sur Radio Canu. Il est l'heure du Canu Info pour ce jeudi 18 décembre. Nous allons parler de plein de petites choses. On commencera évidemment avec Israël-Palestine. On parlera de Sony, on parlera de la Colombie, on parlera de cette amende record qui touche les industriels du savon, on parlera du collège Truffaut sur les pentes de la Croix-Rousse, on parlera des jeux et des jouets, des grands projets inutiles, du sport business et un petit peu de nucléaire. Mais tout de suite, donc, Israël-Palestine.
Ouais, avant, j'avais la phrase du jour que j'avais décidé de faire, puisque j'ai lu une phrase qu'a dit Monsieur Michel Sardou, vous savez, ce chanteur proche de l'extrême droite, hein, ou de la droite, vous le classez où vous voulez. C'était à propos des fameuses crèches, hein, qui, normalement, n'ont pas leur place dans les lieux publics, mais qui sont plutôt réservées dans les lieux religieux, ce qui est normal, hein, et chrétiens, du coup, puisque la crèche est chrétienne. Il a dit, je cite, « Au nom de la laïcité, détruisons les églises pendant qu'on y est. » Je sais pas si on est pour détruire les églises, mais si on pouvait les récupérer pour loger les gens, ça serait déjà pas mal. Et puis que voilà, on se, comment dirais-je, désintoxique de la religion et qu'on apprenne la liberté que ne connaît pas bien évidemment Michel Sardou. Nous allons donc passer tout de suite à la Palestine, ce qui n'a rien à voir. Avec un petit résumé là de ce qui s'est passé ces dernières heures, voire ces derniers jours. Un petit mot d'abord mardi, on va remonter jusque là quand même. On était le 16 décembre. Un jeune Palestinien a été assassiné par l'armée israélienne. Alors les faits, c'est simple. L'armée israélienne est allée dans le camp de réfugiés de Calandia, à Ramallah. Un camp de réfugiés sur lequel il y a souvent des actions de la part de l'armée d'occupation israélienne. On est en Cisjordanie, hein, donc normalement cette armée n'a bien évidemment pas sa place. Donc voilà, ils sont rentrés. Alors forcément, quand ils viennent, c'est un peu tendu. En tout cas, ils ont tiré à la tête, à balles réelles, sur un jeune Palestinien de 21 ans qui a été transporté à l'hôpital de Ramallah, où la mort a été prononcée par les médecins. Alors, bien évidemment, les témoins disent que c'est l'armée qui a tiré en premier, mais quoi qu'il arrive, même si quand l'armée rentre dans le camp, elle ramasse des cailloux ou des choses comme ça, qui sont en général ce qui arrive en premier de la part des Palestiniens, et qui sont beaucoup moins armés que l'armée, coup. Quoi qu'il arrive, ça, un, ils n'avaient rien à faire là. Deux, ils n'ont pas à assassiner. Puisque officiellement, Israël se réclame en permanence d'être une démocratie et de ne pas avoir la peine de mort. Sauf que là, une fois de plus, l'État israélien, avec son bras armé, hein, qui est les forces militaires, ont assassiné ce jeune Palestinien, qu'ils ont dû considérer comme un futur terroriste, j'imagine, pour justifier leur action. Toujours sur la situation israélo-palestinienne, qui démontre pourquoi il y a des tensions aussi. On va parler de Hébron et de Jérusalem, notamment ce quartier de Silvan, hein, à Jérusalem, là où il y a eu un peu des tensions ces derniers temps. Et c'est normal qu'il y ait des tensions. Quand vous apprenez, par exemple, c'était hier, enfin même aujourd'hui, que les autorités israéliennes avaient délivré 17 nouveaux ordres de démolition de maisons. Donc ils les ont délivrés à des familles palestiniennes, hein, de Jérusalem et de Hébron. Alors sur ces 17, il y en a 11 qui concernent le quartier de Silvan, donc à Jérusalem-Est. Notamment, par exemple, en prenant un exemple sur ces 11, il y a la maison de Abu Sneneh qui habite là depuis 30 ans. Donc cette maison là au moins 30 ans. Alors bien sûr, l'excuse c'est de dire oui, mais il n'y a pas eu de permis de construire. De toute façon, les Palestiniens, quand ils demandent à construire sur une de leurs terres qui est administrée par le colon israélien, ils n'obtiennent jamais de permis de construire. Donc à un moment, il est bien obligé de construire sa maison ou de l'agrandir s'il veut continuer à vivre dedans. Donc ça permet bien sûr à l'État israélien de pouvoir faire ce qu'il veut après, de ne jamais donner de permis de construire. Un centre d'aide et de soutien aux Palestiniens a calculé que ça faisait 70 personnes qui se retrouvaient à la rue. Alors ça c'est pour Jérusalem Est et ce quartier de Silvan, à peu près 60% des maisons sont sous cette menace d'expulsion et ensuite de démolition et ensuite d'occupation par les Israéliens. Donc voilà pour Jérusalem Est. Je passe à Hébron. Donc à Hébron, c'est 6 maisons, enfin 6 familles qui ont reçu pour leurs 6 maisons donc des ordres comme quoi elles allaient être détruites. Même excuse. Pourtant là cette fois-ci on est à Hébron. Vous allez me dire Hébron, mais attendez, Hébron c'est pas du tout à Jérusalem, c'est en Cisjordanie. Oui, mais en Cisjordanie quand on veut construire, il faut aussi demander, notamment quand on est dans certaines zones et notamment la zone C, à l'autorité israélienne, hein, qui occupe. Et comme elle donne jamais, c'est le même raisonnement que précédemment, elle ne donne jamais le permis de construire. Les Palestiniens, plutôt que de rester dehors et de dormir sur leur terre, ils construisent à un moment une maison et voilà. Et donc là, l'État israélien, pour continuer de mettre la pression sur les habitants de Cisjordanie, ont émis donc 6 nouveaux ordres de démolition concernant donc des familles. C'est le village de Alcom, très exactement, juste à l'ouest d'Hébron. Voilà pourquoi la situation reste tendue et restera tendue tant que l'État israélien continuera de mettre en œuvre cette politique. L'objectif étant bien évidemment, quand on détruit les maisons des Palestiniens, c'est de les faire partir, de construire ce qu'ils appellent le Grand Israël, pour virer tous ces non-juifs de ce pays qu'ils veulent 100% juifs. Ça s'appelle aussi de l'épuration ethnique. Donc voilà. Alors, dans la série des votes aux différents parlements, on est passé au Parlement européen hier, et il y a eu une résolution qui a été votée de reconnaissance de l'État palestinien. Donc 98 voix pour, 88 contre. Par contre, c'est une résolution qui nous fait beaucoup moins plaisir que les dernières, parce que là, il y aurait pu avoir une vraie mise en œuvre de la résolution. Non seulement de reconnaître l'État palestinien, mais aussi d'arrêter de favoriser Israël dans notamment les rapports commerciaux avec l'Europe. Enfin voilà, il y avait plein l'occasion de parler de plein de choses, de demander le démantèlement des colonies, la levée du blocus de Gaza, mais non, c'est juste une résolution symbolique, alors que contrairement aux autres parlements qui n'ont pas les moyens de pression directe sur Israël, là l'Europe a un vrai moyen de pression sur Israël, au moins du point de vue économique. Ils ont rien fait, donc c'est quand même très très triste. Et du coup, c'est plutôt une sorte de sauf-conduit. Regardez, on a fait ce qu'on voulait, on a demandé qu'il y ait à nouveau des négociations, etc., etc., etc. Voilà, ça n'avance pas vraiment de ce côté-là. La nouvelle du jour, qui est, on comprend pas bien pourquoi, mais en tout cas, elle est tombée, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne a demandé ce que la Hamas soit retirée de la liste des organisations terroristes. Donc cette liste qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans, dont le but est calqué sur ce qu'ont fait les Américains après le 11 septembre 2001, de créer des choses très liberticides de partout, de recenser tous ceux qui s'opposent par la violence à des choses des fois violentes et qui sont d'office qualifiées de terroristes. Du coup, le Hamas avait été mis dedans. Donc là, l'avocate du Hamas avait amené des dossiers en disant, mais attendez, à l'époque, il n'y a eu aucune étude sur le Hamas. Ils avaient récupéré 3 infos qui se couraient après et ils ont décidé de le mettre en organisation terroriste. Et effectivement, la justice européenne a reconnu qu'il n'y avait pas d'études sérieuses pour qualifier le Hamas. Donc ils vont l'enlever, bien sûr ça ne change rien à rien, parce que les avoirs qui sont bloqués vont rester bloqués, tout le reste va rester coincé, et puis les gouvernements vont sûrement faire appel de la décision pour réintroduire le Hamas dans les organisations terroristes. Alors même si le Hamas, qu'on classerait proche de l'extrême droite, c'est un parti d'extrême droite religieuse, le Hamas, et a priori on n'apprécie pas outre mesure l'extrême droite religieuse, les reconnaître comme seuls terroristes est quand même un petit raccourci de l'histoire et des faits, puisque c'est avant d'être une organisation qui a fait de la violence, c'est une organisation de résistance. Alors bien évidemment, les résistants français pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient qualifiés de terroristes par l'occupant, et ça paraît difficile que les Israéliens qualifient le Hamas de terroriste. On le comprend dans cette logique, on occupe, on veut virer les autres, donc ceux qui résistent violemment sont des terroristes. Par contre, au niveau de l'Europe, c'est beaucoup moins compréhensible que le Hamas soit classé dans les organisations terroristes et pas l'armée israélienne, par exemple. Parce que si on veut être égalitaire, le Hamas a fait des actions violentes, a tué des gens, etc., etc. Oui, bon, on les classe, ils font peur, donc ils mettent de la terreur, c'est une organisation terroriste. Mais dans ces cas-là, l'armée israélienne, elle a tué beaucoup plus que le Hamas, elle fait beaucoup plus peur à beaucoup plus de gens en Palestine, elle brime des gens, elle arrête des enfants, elle torture des enfants, des femmes, etc. Il faudrait à égalité la classer en organisation terroriste. C'est là où l'Europe a pas de courage. C'est pour ça que ces listes ne sont que des outils de propagande et des outils politiques qui sont au service des politiques et du pouvoir, mais pas des choses réalistes, pas une liste qui aurait un sens, parce que même si on peut critiquer le Hamas, c'est qualifier l'organisation de simplement terroriste n'explique pas pourquoi elle est si forte, pourquoi elle est aussi implantée dans la population et pourquoi elle est toujours considérée par une partie des Palestiniens comme un groupe de résistants et respectable. Sinon, parce que quand on met juste terroriste, c'est incompréhensible pour nous. Or, c'est beaucoup plus simple que ça. Quand on résiste, même par la violence. Et puis pour terminer sur les Palestiniens, ça va se jouer au niveau de l'ONU, puisque la Jordanie, c'est un peu le seul pays qui aide un peu la Palestine quand même dans cette affaire-là, puisque ils ont proposé une nouvelle résolution pour essayer de faire la paix entre Israël et la Palestine et les Palestiniens. Et c'est pas facile. Il y a des grosses négociations depuis hier autour de cette résolution. Bien sûr, les États-Unis ont dit qu'ils mettraient leur droit de veto, donc ça se négocie sur le contenu de la résolution pour que les États-Unis ne mettent pas leur droit de veto. Donc voilà, c'est des tractations. Heureusement du coup qu'il y a la Jordanie quand même pour porter les revendications de la Palestine, puisque comme les Palestiniens ne sont pas membres de l'ONU, ils ont pas le droit de porter ce genre de résolution. L'objectif étant d'arriver à relancer la paix qui est arrêtée, même si Benjamin Netanyahou a fait une belle œuvre de propagande hier dans la presse israélienne, puisqu'il a accusé les Palestiniens de ne pas vouloir discuter sérieusement. Bizarrement, on a l'impression que c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. Et il a dénoncé aussi l'hypocrisie et la naïveté de la communauté internationale, et notamment de l'Europe, en expliquant qu'Israël était le seul rempart pour la démocratie au Moyen-Orient. Alors c'est vrai que les États autour, les États dits arabes, sont pas des grands moments de démocratie. Enfin, Israël, la preuve avec l'assassinat de ce Palestinien mardi, c'est pas typique d'une démocratie d'envoyer l'armée pour assassiner quelqu'un. Ça paraît bizarre. Et puis on parle de démocratie. Moi, j'aimerais bien qu'un jour Israël me montre les textes qui régissent Israël, et notamment la Constitution, qu'ils n'ont jamais décidée, jamais votée, jamais prise, jamais écrite. Donc voilà, c'est un bien grand mot, ce mot démocratie, dans la bouche de Netanyahou.
Alors on va parler de Sony, cette multinationale industrielle, un phare des années 70, 80 et 90, qui connaît de sérieux revers industriels et financiers. Il faut dire que les comptes de Sony sont depuis près de 10 ans dans le rouge. Alors il faut se rappeler quand même, c'est le groupe qui a régné sur les Walkman.
Avant, inventé et le Walkman. Donc du coup,
avant les MP3, souvenez-vous, sur les téléviseurs, ils ont été sur les téléphones mobiles avec Ericsson, sur les appareils photo, et puis c'est le seul groupe japonais à s'être imposé à Hollywood avec le studio Columbia Sony Pictures.
Oui, puis dans les disques, ils avaient racheté CBS, enfin voilà, c'était une grosse multinationale.
Au niveau industriel, c'est vrai qu'ils ont été balayés par la concurrence des Apple et des Samsung. Ils se sont un petit peu enfoncés aussi, parce que c'est vrai que Sony n'a pas su voir venir la surutilisation des smartphones ou des tablettes. Même la liseuse de Sony a été abandonnée, c'est-à-dire qu'ils l'ont carrément laissé tomber. Alors il reste à Sony des marchés porteurs, c'est le cinéma et les jeux vidéo. Alors Sony reste numéro 1 au niveau des consoles de jeux vidéo, avec sa PS4, 14 millions d'exemplaires vendus.
1 million en France.
Énorme. Alors, c'est ces deux secteurs des jeux vidéo et du cinéma qui ont connu des cyberattaques. On va se souvenir qu'en 2011, c'est un groupe de hackers, les Luz Security, qui avait piraté le réseau PlayStation Network. C'est ce qui permettait aux possesseurs des consoles PS3 de jouer en réseau et de télécharger un certain nombre de choses, audio, vidéo, tout ça. Ça a été un piratage absolument énorme à l'époque. 100 millions de comptes Sony avaient été piratés. 23 millions de cartes de crédit en service, les données avaient été récupérées. Il y a le 2 millions de noms de clients de Sony qui avaient été publiés. Enfin, c'est une affaire qui avait coûté 120 millions de dollars. Énorme. Et voilà ce piratage de Sony Pictures qui plante un peu plus le groupe. Alors on va revenir un petit peu comme sur cette affaire. C'est vrai que moi j'attendais un petit peu de voir comment tout ça allait se développer. Ça a commencé fin novembre, le lundi 24 novembre précisément, les salariés de Sony Pictures arrivent au boulot, c'est un lundi, c'est sympa, ils allument leur ordinateur, et là ils sont accueillis sur l'écran par un petit mot de bienvenue qui leur dit « Nous vous avions déjà prévenu et ce n'est qu'un début. Nous continuerons jusqu'à ce que notre demande soit satisfaite. Nous avons obtenu toutes vos données internes, incluant vos secrets et vos mots de passe. Si vous ne nous obéissez pas, nous publierons ces données pour les montrer au monde entier. Décidez-vous avant le 24 novembre, 23h. » Alors sur le coup, Sony avait prétexté d'abord un petit problème technique. Alors il faut dire que dès le lendemain, c'est des milliers de fichiers confidentiels de Sony Pictures qui sont publiés sur le net. Reuters médiatise l'affaire dès le 2 décembre, qui force les deux directeurs Michael Linton et Amy Pascal à reconnaître le 4 décembre, un vaste vol de données confidentielles. Alors oui, ça, c'est vaste, puisque dans ces documents figure alors l'annuaire des salariés actuels et des anciens salariés, leur salaire, leur couverture sociale. Il y a même tous les documents sur les appréciations sur les employés. Il y a des courriers de cadre, il y a des centaines de mots de passe, des scripts de futures séries ou de films, des copies de films inédits, par exemple Fury ou Annie, qui est une comédie musicale avec Cameron Diaz et Jamie Foxx. Fury, c'est le dernier film avec Brad Pitt, ont été mis donc à disposition. Alors, c'est déjà des films qui ont été téléchargés un sacré paquet de fois. Et puis on trouve aussi, ça a fait beaucoup réagir dans la presse qui a aimé le côté croustillant de la chose, un certain nombre d'échanges par email des dirigeants du studio, dans lequel on peut lire qu'il y a un certain nombre de stars en prennent un peu pour leur grade, c'est pas toujours de bon goût, mais voilà, toutes ces choses ont été révélées. Alors ça a été diffusé par un groupe qui se fait appeler les Guardians of Peace, les gardiens de la paix. Et alors déjà, les médias aux États-Unis d'Amérique désignent la Corée du Nord dans les rôles des méchants.
Il faut dire qu'il y a une histoire de film.
Ouais. Alors, faut dire que l'attaque, elle a été lancée à peu près un mois avant la sortie de The Interview. Alors, c'est une comédie avec James Franco et Seth Rogen, c'est le réalisateur, qui incarne deux journalistes recrutés par la CIA pour assassiner Kim Jong-un. Donc, vous pouvez voir la bande-annonce hein, sur Internet. Il reste encore ça. Alors, il faut savoir que lors du lancement du projet de ce film, la Corée du Nord avait demandé sans rire à l'ONU de censurer le projet. Ils avaient même menacé, la Corée du Nord avait menacé la production. Elle en avait appelé à Ban Ki-moon hein, pour intervenir au niveau international. Mais le film s'est bien fait et il était programmé pour une sortie le 25 décembre prochain aux États-Unis, le 18 février en France. Alors, au moment donc de ces révélations, de cette attaque, Sony Pictures a finalement décidé d'annuler les sorties médiatiques des deux acteurs, c'est-à-dire elle a finalement stoppé la promotion du film, et puis elle a annulé la première new-yorkaise du film qui devait avoir lieu ce jeudi. Alors, il faut dire que les gardiens de la paix avaient menacé Sony Pictures d'attentat hein, lors de la première du film à New York, donc bon, ça les a peut-être un peu freinés. À côté de ça, il y a des grandes chaînes de cinéma aux États-Unis qui ont annoncé qu'elles ne diffuseraient pas le film. Et finalement, hier, Sony a annoncé qu'il renonçait à sortir le film. Quelle que soit la manière, pour l'instant, ils ont expliqué au studio que les co-directeurs qu'il n'y aurait pas de projet de film, que tout était abandonné pour l'instant. Alors c'est aussi une pâte à caisse un petit peu au niveau hein, quand même diplomatique. Monsieur Obama est même intervenu pour expliquer, donner un petit peu ses conseils. Il a dit ma recommandation, c'est aller au cinéma. C'était sur ABC. De son côté, le Département d'État a tenté de minimiser l'attaque. Il n'y a pas de menace crédible pour le moment, a-t-on appris. Et puis quand même, ils ont tenu à préciser au Département d'État que c'était pas le point de vue hein, des États-Unis le film. Hein, c'était une comédie.
Ouais, a priori c'était bon enfant, enfin c'était pas un film critique sur la Corée.
Bah, il suffit de voir un peu la bande-annonce pour voir un petit peu le film. Moi j'aurais bien aimé le voir, hein, je vous le dis. Hein, pourquoi j'aurais.
Il sortira un jour.
Voilà, c'est parce que bon, on va peut-être bien finir quand même par arriver à un moment à le trouver. On espère qu'il y aura une possibilité quand même de le voir, ce film qui finalement fait causer. Alors, du côté des enquêteurs et du FBI, on se dit convaincu que c'est la faute de la méchante Corée du Nord. La Corée du Nord nie être à l'attaque être à l'origine de l'attaque. Mais par contre, ils trouvent que, bon, c'est un piratage légitime. Hein, finalement, c'est pas si malvenu, hein, ce piratage.
Ouais, alors qu'ils ont des groupes de pirates, hein, puisqu'ils ont déjà piraté des banques sud-coréennes. Ils ont un gros groupe de hackers hein, qui travaillent officiellement pour eux. Et il n'y avait pas, à part la Corée du Nord, on voit pas qui aurait intérêt à faire que ce film ne sorte pas.
Alors le truc, c'est qu'il y a des gens qui disent, ok, on part sur ce principe que c'est ce film-là qui est visé, mais finalement, ça pourrait être aussi une excuse. Très sincèrement, tant que pour l'instant, on ne sait pas qu'il n'y a pas d'autres démarches, ça devient un peu compliqué, surtout qu'on ne sait pas tout ce qui a pu être divulgué, tout ce qui n'a pas encore été divulgué et qui est tenu et qui pourrait continuer à apparaître. Alors c'est des conséquences sur évidemment les finances de Sony, puisqu'ils commencent à dire que toujours le même discours, hein, que plus les films sont téléchargés, moins les gens vont les voir au cinéma. On sait que
c'est l'inverse en fait. Plus les gens vont voir au cinéma, plus le film lui a du succès, voilà. Et plus il est téléchargé.
Sauf quand le film est mauvais, que finalement ça marche pas, enfin ou du moins que vraiment sur le web, les forums commencent à dire que le film est tellement mauvais qu'il faut pas y aller. Alors il y a d'autres films sur lesquels il y a des débats. Mais bon, il y a toujours cette excuse-là. Toujours est-il que pour Sony, il y a aussi une histoire d'image, parce que dans les informations qui ont déjà été dévoilées, il y a des courriers dans lesquels on apprend des histoires de discrimination. On apprend aussi que les employés de Sony sont très critiques à l'égard de leurs propres films. Et puis on apprend aussi tous les fonctionnements du groupe sur le marketing pour vendre les films, avec des petits tas de petites histoires internes qui donnent pas forcément une très belle image de Sony, même si on n'en attend pas.
Oui, c'est une grosse multinationale.
Une grosse boîte. À côté de ça, il y a déjà deux anciens salariés qui ont annoncé avoir déposé une plainte en nom collectif contre Sony Pictures, puisqu'ils les accusent de ne pas avoir protégé leurs informations personnelles. Il y a d'autres salariés actuels qui pourraient suivre. Alors, Sony, ils essayent un petit peu de rattraper les choses. Alors, pour l'instant, il paraîtrait que Sony aurait lancé des attaques par déni de service contre les sites qui publient les données. Le but, hein, c'est de ralentir les téléchargements. Voilà, Sony s'active tentative, hein, pour tenter de garder la tête haute, mais bon, on peut penser que l'affaire elle est pas finie. C'est pas la première fois qu'ils se font attaquer, mais c'est vrai que là, non seulement c'est une attaque absolument énorme, mais en plus de ça, c'est aussi une attaque qui menace les salariés directement. C'est-à-dire qu'il s'agit pas juste de savoir combien les gens gagnent. Alors évidemment, il y a les salaires des patrons, mais il y a aussi tous les autres travailleurs et travailleuses de Sony dont les informations sont dévoilées. Mais c'est vrai que c'est aussi les menaces, hein, qui sont portées contre les salariés, qu'on les pense réelles ou pas, ça doit quand même un petit peu marquer les esprits. Voilà, c'est quand même une sacrée affaire qui a aussi, comme je vous le disais, des répercussions un petit peu plus diplomatiques.
Ouais, puis après, il faudra savoir les enjeux et comment ça s'est fait, parce qu'il y a quand même des bruits qui courent comme quoi le piratage aurait été fait en interne. Du coup, c'est plus difficile de lutter contre un salarié qui aurait les codes parce qu'il travaille dans l'entreprise et qui va pirater le système, plutôt qu'une attaque extérieure par des méchants pirates, hackers. Donc là, on n'a pas encore toutes les infos. Effectivement, s'ils se sont fait pirater de l'intérieur, ce qui est possible aussi, ça veut dire qu'il y a des traîtres et qui ont fait tomber le truc de l'intérieur, ce qui est quand même pas très classe. Pour les autres salariés, ouais, en tout cas.
Alors il faut se rendre compte aussi qu'il y a des choses qui n'étaient pas très bien protégées, hein, puisque dans les documents qu'on peut voir, il y a des fichiers Excel dedans, avec des fichiers Word, des tas de choses comme ça. C'est bête, les choses sont même pas cryptées. Enfin, je veux dire, les mots, c'est des fichiers entiers avec des mots de passe. C'est quand même assez délirant.
Le fichier s'appelle Password.
Voilà, c'est non, mais il faut être con quand même.
Puis ils sont encore. Non, mais après, rien n'est crypté parce qu'ils sont sous Windows et que sous Windows, c'est pas prévu.
Oui,
pour
ils sont
crypté.
Des produits Microsoft.
Voilà, ils sont. Mais bon, ça, c'est la faiblesse des multinationales. Enfin voilà, on poursuit avec un petit mot sur la Colombie et les FARC, vous savez, ce groupe marxiste qui lutte contre l'extrême droite en Colombie, qui lutte de manière violente, hein, c'est une guerre civile dont il est question. Gros coup de théâtre aujourd'hui, enfin ça a été annoncé hier. Donc c'est à La Havane que ça se passe, c'est à Cuba que depuis 2 ans il y a des négociations de paix entre les FARC et le gouvernement colombien. En tout cas, les FARC ont annoncé dans leur communiqué qu'il y avait un cessez-le-feu unilatéral. Donc ils arrêtent pour l'instant la lutte armée. Alors la date elle est donnée, c'est à partir du 20 décembre. Alors c'est un truc assez incroyable, hein, de dire ça comme ça. Sauf que ils sont très très intelligents. Ils ont fait ça très fin, très finement. Ils ont dit oui, mais on arrête si les autres, l'extrême droite, la police, tous ces gens qui sont contre eux, les attaquent, parce que là ils repartiront. Ce qui paraît normal quand on fait un cessez-le-feu, faut que l'autre camp il joue le jeu. Et surtout, ce qui a du coup créé la grosse polémique en Colombie, ils ont demandé qu'il y ait des observateurs internationaux. Et qu'une lutte armée comme ça, d'extrême gauche notamment, demande qu'il y ait des observateurs internationaux, c'est que ils connaissent le gouvernement colombien, hein, et les milices d'extrême droite, et ben ils se disent ben voilà, nous on arrête la guerre, mais il faudrait que les autres jouent le jeu, et sans observateurs internationaux, ça sera pas possible. Donc voilà, alors le gouvernement a répondu qu'ils étaient contents du cessez-le-feu, mais que bon, par contre, ils étaient contre des observateurs internationaux. Ce qui, du coup, remontre que si on cherche le bien et le mal, ce qui est pas facile, mais grosso modo, le gouvernement continue avec son idéologie d'extrême droite contre les guérilleros qui sont de l'autre bord politique. Et eux, contrairement aux FARC, ont pas envie que la situation évolue, ils ont pas envie que la société évolue, ils veulent garder leur système très liberticide, hein, qu'ils ont mis en place depuis de nombreuses années. Du coup, tout ça remet en avant et valorise les FARC. C'est bien, bien tenté, bien fait, bien réussi. Le cessez-le-feu va sûrement pas durer puisque les milices ou les policiers ou l'armée vont continuer d'attaquer les FARC. Mais c'est un beau coup d'éclat très très bien fait de la part de ces guérilleros.
Alors on va parler un petit peu savon. Vous avez certainement entendu que l'autorité de la concurrence a sanctionné 2 nouvelles multinationales. Alors, juste pour vous remettre un petit peu peut-être des montants, l'amende la plus sévère infligée par l'autorité remontait à 2005, 534 millions d'euros pour une entente dans la téléphonie mobile. Et là, l'autorité de la concurrence a condamné 13 multinationales pour une nouvelle entente. Alors les sanctions, elles se montent à plus de 345 millions d'euros contre 8 fabricants de produits d'entretien, à plus de 605 millions d'euros contre 11 fabricants de produits d'hygiène et de beauté. C'est la plus lourde amende, hein, 605 millions donc infligés. Alors, il y a 6 entreprises qui sont apparues dans les deux volets de cette affaire, puisque deux amendes, deux volets. Alors, les 6 entreprises, c'est Colgate Palmolive, Henkel, Unilever, Procter & Gamble, Reckitt et Sara Lee. Alors, dès le début, comme toujours dans ces histoires d'entente, il y a eu des demandes de clémence, puisqu'il y a des entreprises qui ont reconnu les faits et qui ont balancé les autres, comme toujours. Hein. Alors, en faisant ça, on vous l'a déjà expliqué, hein, ça permet aux entreprises de soit annuler l'amende, soit de la faire baisser d'une manière assez importante. Alors, l'autorité de la concurrence, elle n'a pas hésité, puisque, par exemple, une des anecdotes que j'ai relevées, qui n'en est pas vraiment une, mais qui, moi, m'a en tout cas marqué, c'est que l'autorité, elle explique que les entreprises savaient parfaitement ce qu'elles faisaient, puisqu'elles avaient même été jusqu'à cacher certains des documents incriminants chez les salariés, c'est-à-dire que hein, c'était mis carrément à demeure. Alors, dans ces entreprises, SC Johnson a été dispensé d'amende, hein, puisque c'est le premier groupe à avoir révélé les faits. Colgate Palmolive, qui apparaît dans les deux volets, a vu une amende réduite de 50% sur le secteur de l'entretien, ce qui fait quand même une amende à 59 millions d'euros et n'aura rien à payer hein, dans l'hygiène. Voilà, il y a eu une petite négociation. Alors, L'Oréal, eux, ils sont dans ces deux affaires et c'est le groupe le plus lourdement condamné. 189 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'ils ont été reconnus comme étant prédominants sur le secteur des cosmétiques, hein, hygiène beauté. Donc L'Oréal a décidé de faire appel. Un autre groupe qui a décidé de faire appel, c'est Unilever. Alors, je vous ai dit une bêtise. L'Oréal, ils étaient que dans une seule de ces affaires, et c'est Unilever qui était dans les deux affaires. Unilever, ils ont pris eux 173 millions d'euros d'amende. Alors eux, chez Unilever, ils trouvent ça disproportionné et injustifié. Donc à Unilever, on va faire appel. Alors, ces 13 sociétés, elles ont été condamnées pour avoir coordonné leur politique commerciale auprès de la grande distribution et donc pour s'être concertées sur les hausses de prix, sur les promotions. Voilà. Alors, le truc, c'est que donc ça, c'est une sanction, une entente ça sanctionne une entente entre 2003 et 2006. Excusez-moi. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les responsables des multinationales se retrouvaient dans les cafés et les restaurants. C'est vrai que le bistrot, c'est tout de suite un peu suspect quand des cadres commencent à faire des petites réunions. Alors, ils se sont un petit peu cachés derrière le truc en disant oui, mais enfin. Le consommateur, c'est pas un problème, il n'a pas été touché. Alors, ça c'est leur argument pour cette fois, mais il faut savoir que en 2011, c'était un premier volet de l'affaire, l'autorité de la concurrence avait déjà sanctionné Unilever, Procter & Gamble, Henkel, Colgate Palmolive pour des ententes remontant entre 97 et 2004. Et là, les estimations de l'autorité de la concurrence était de 4 à 6% d'augmentation pour les consommateurs. Donc oui, il y a bien une répercussion sur le consommateur et la consommatrice. Hein, quand vous achetez votre bidon de lessive, ben, y a des gens derrière qui se sont mis d'accord et qui font que ben, vous payez plus cher votre lessive. Tout simplement. Alors voilà, moi,
c'est l'équivalent du vol, mais dans le système économique capitaliste et fait par les multinationales. Hein, c'est vraiment ça. Le consommateur se fait voler puisqu'il est obligé de payer un produit plus cher que si les fameuses règles là, de la concurrence auxquelles on ne croit pas beaucoup, la preuve, étaient appliquées correctement.
Alors il paraît que c'est la faute de la grande distribution qui les empêche de bien pouvoir négocier de la part de multinationales comme L'Oréal ou Unilever. Moi, ça me fait doucement sourire. Alors je suis allée voir un petit peu le site d'Unilever France. Je vous rappelle qu'Unilever, c'est de l'alimentation aussi, un grand public. C'est des marques comme Magnum, c'est Amora, c'est Maizena, c'est Ben & Jerry's, c'est Elephant, c'est Alza, c'est Mike, c'est Carte d'Or, c'est Knorr, c'est Mico, c'est Fruidor. Je vais m'arrêter là, mais c'est aussi des produits réservés aux pros avec la gamme Unilever Food Solution. Comme on l'apprend sur le site, c'est des ingrédients qui permettent de gagner un temps précieux en cuisine. Hein, je vous laisse imaginer ce que c'est. Et puis donc les marques pour les produits d'hygiène et d'entretien, c'est des trucs comme Dove, c'est Axe, c'est Skip, c'est Timothée, c'est Homo, c'est Rexona, c'est Cajoline, c'est Mon Savon, c'est les dentifrices Signal. Enfin voilà, donc je suis allée voir sur leur site pour voir ce qu'ils nous racontent. On apprend donc que c'est 2 milliards de personnes qui achètent un produit Unilever chaque jour. C'est assez impressionnant. Alors en bas de la page d'accueil, en bas à gauche, il y a des liens utiles, un conseiller. Alors j'ai cliqué, comme on me le conseillait gentiment, sur notre code de conduite. Et on nous explique sur le site d'Unilever. Nous pensons qu'une ligne de conduite exemplaire à l'égard de nos collaborateurs, de nos partenaires, de la société et de l'environnement qui nous entoure est indissociable de notre succès. Unilever s'est forgé une réputation de conduire ses affaires avec intégrité et dans le respect de ceux qui sont concernés par ses activités. Cette réputation est un atout aussi précieux que notre personnel et nos marques. Pour maintenir cette réputation, il faut que chacun d'entre nous respecte des règles de conduite répondant aux exigences les plus hautes. Un petit peu plus loin, être une entreprise florissante ne signifie pas seulement investir pour notre croissance et trouver un équilibre entre les intérêts à court et à long terme. Cela signifie aussi se soucier de nos consommateurs, de nos salariés, de nos actionnaires, de nos partenaires et du monde dans lequel nous vivons. Nous voulons que ce code soit plus qu'un simple recueil de grandes déclarations. Il doit s'appliquer à nos activités quotidiennes et chacun d'entre nous doit s'y conformer dans l'esprit et à la lettre. Si nous agissons ainsi, la réputation d'Unilever sera renforcée, notre business sera plus performant et notre vie professionnelle plus satisfaisante. Donc, voilà le code de conduite d'Unilever. Bon, là, je pense que la réputation, elle en prend un petit coup. Je pense que la transparence, elle en prend aussi un petit coup. Et que ils se soucient surtout de leurs actionnaires, un peu moins des consommateurs, certainement beaucoup moins de leurs salariés et certainement aussi encore un peu moins de leurs partenaires. Et que tout ça, c'est encore très, très beau. Je vous laisserai aller découvrir par vous-même la rubrique « Qu'y a-t-il dans nos produits ?». Vous verrez, là aussi, on prend soin de nous, les consommateurs et consommatrices. Et surtout, on ne cherche pas à nous escroquer et à nous voler. Des crapules, donc.
Voilà, nous poursuivons avec une petite info ultra locale puisque ça se passe à 500 mètres à peu près du studio de Radio Canu. Il y a l'ancien collège François Truffaut sur les pentes de la Croix-Rousse. L'année dernière, ce 18 décembre, il y avait une occupation de ce collège qui est à l'abandon, on va dire quelque part, qui est déserté depuis un an et demi à peu près, un peu moins, un an et quelques mois, puisqu'ils ont regrouper ce collège et le collège Morissève en un seul grand collège sur le grand boulevard de la Croix-Rousse. Et mais l'année dernière, lors de l'occupation, tout le monde s'était rendu compte ce jour-là que ce collège à l'abandon était toujours chauffé, était immense, alors qu'il y a des centaines de personnes à la rue. Du coup, les gens présents avaient essayé d'occuper pour demander ce que la préfecture officialise le collège Truffaut comme un lieu d'habitation pour les personnes à la rue. Bien évidemment, la préfecture n'avait pas apprécié et les occupants avaient été expulsés manu militari à coup de tout ce que vous imaginez, notamment de gaz lacrymogène. Aujourd'hui, ça fait un an, nouveau rassemblement qui a commencé à 18h30, on est passé voir. Cette fois-ci, la flicaille est bien tout autour de l'ancien collège pour empêcher toute personne de rentrer dedans. A priori, c'est quand même, de toute façon, pas le but. Mais on découvre que un an après cette occupation, le collège, donc un lieu immense, est toujours vide, toujours chauffé et toujours inutilisé, alors que le préfet a demandé à Monseigneur Barbarin d'accueillir des sans-papiers dans ses locaux vides. C'est quand même un truc de dingue. C'est de l'hypocrisie, du mensonge, de l'irrespect, de tout ce que vous voulez. Ce pseudo-représentant de l'État qui a des centaines de milliers de mètres carrés vides à disposition est allé quémander à l'église de faire un peu la charité sur les pauvres qui sont dehors. C'est quand même se foutre de la gueule du monde. Du coup, il y a différents collectifs qui se sont mobilisés depuis déjà de nombreuses semaines, notamment Jamais sans mon toit, qui regroupe pas mal de gens. Il y a des établissements scolaires qui sont occupés, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a 194 personnes proches des enfants de ces établissements scolaires qui sont à la rue avec leurs enfants. La préfecture a trouvé pour l'instant 30% de logements. Donc pour ces personnes, du coup il y en a encore 70% plus ou moins à la rue. Alors souvent ils sont hébergés par les militants, les profs, etc. qui prennent sur eux pour s'occuper d'eux, puisque la préfecture refuse en disant nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les lieux. Et là la preuve flagrante du mensonge des services de l'État et de la préfecture, c'est que bah des lieux il y en a, hein, pour preuve les milliers, les centaines de mètres carrés, presque milliers d'ailleurs, du collège François Truffaut sur les pentes de la Croix-Rousse sont toujours vides et en plus chauffés. Du coup ça coûterait rien d'ouvrir ces portes aux gens à la rue. Donc voilà, les mobilisations, notamment du collectif Jamais sans toi, continuent, et même si les vacances arrivent, ça va continuer encore et toujours pendant les vacances, et ça reprendra de plus belle à la rentrée, parce que laisser des gens à la rue n'est a priori quand même pas acceptable par beaucoup de personnes, contrairement aux représentants de l'État qui, eux, pensent que c'est normal de laisser les gens à la rue. Donc voilà, petite info, si vous n'êtes pas très loin, vous pouvez aller soutenir ceux qui sont devant. Le collège François Truffaut, c'est place Morel, sur les pentes de la Croix-Rousse.
Alors c'est bientôt Noël, hein, ho, ho, ho. Et donc avec les cadeaux, les jouets pour les filles, les jouets pour les garçons.
Ouais, les garçons ils ont Big Jim et les filles elles ont Barbie.
Voilà. Alors ça c'était une autre époque, peut-être avec les Big Jim, vous avez reconnu peut-être l'âge comme ça de Laurent qui se trahit
tout seul. Bah, les Barbie ça existe toujours.
Oui ça les Barbie ça existe toujours. Et alors moi je me suis un peu intéressée à la vente en ligne parce que je me suis dit allons voir si les choses avaient changé. Côté sexisme avec les jouets.
Oula, je crois pas.
Ma naïveté, évidemment, je me l'ai vite remballée. Alors, je me suis intéressée à quatre sites, simplement à ces quatre-là, mais déjà, ça m'a fait bien marrer. Alors, Amazon, parce que c'est le mastodonte hein, de la vente en ligne. À Carrefour, pour avoir un site de la grande distribution. À la Fnac, parce que ça fait le vendeur des culturels. Et à une chaîne de jouets, la Grande Récré. Alors, sur Amazon, je suis donc allée sur la page jouets. Amazon France hein. Et là vous avez donc la petite série de petites cases sur lesquelles vous pouvez cliquer pour aller rechercher un peu plus précisément. Donc le premier mot c'est promotion, le deuxième mot c'est garçon, le troisième mot c'est fille. Voilà, et après on passe aux âges, hein, 0, 2, 3, 4 ans, voilà.
Mais du coup c'est très sexualisé ouais. Dès le départ.
Alors moi je me suis intéressée qu'aux versions filles, puisque moi je suis une fille, que je voulais savoir quel jouet on allait pouvoir me proposer.
Ah bah, c'est dommage, t'aurais pu chercher pour me faire un cadeau.
Non, tu vois. Donc Amazon nous fait une sélection pour filles. Attention, quoi. Donc, on y retrouve évidemment les poupées, les loisirs créatifs, hein, ça, parce que aussi c'est très féminin, les bijoux et cosmétiques, parce que apprendre à nos gamines de 5 ans à se maquiller, c'est tout à fait intéressant. Les déguisements, mais alors les déguisements, c'est Cendrillon, Barbie, princesse.
Hein, oui, il n'y a pas hein. Le flic et le pompier.
Voilà. On a évidemment les jeux d'imitation, vous savez, c'est je fais la cuisine, je joue au docteur, je fais le ménage.
Ah, je fais le ménage. Ça, c'est très,
je vous jure,
très bien.
C'est sur Amazon. Je fais le ménage, je tiens mon commerce et je bricole. Oh, ils nous ont fait un cadeau exceptionnel.
Ah oui, je bricole,
j'ai
dis
le
donc.
Droit de bricoler, donc incroyable, j'en ai pas cru mes yeux quoi. Après on a le droit à la version Lego, mais alors là, la version Lego Friends, c'est-à-dire c'est un petit peu plus féminin. Et puis Playmobil, alors Playmobil, Amazon nous propose la maison de ville, le hara et le centre équestre, hein, c'est pareil, c'est très féminin le cheval les ouais. Princesses, les loisirs et le grand hôtel, et la vie à la maison et à l'école. Hein. On garde bien la femme et la petite fille à la maison, c'est important. Il y a évidemment les peluches, les jeux électroniques, ils sont plutôt roses. Hein, comme les jeux de plein air qui sont aussi roses de préférence ouais. Quand même, il faut le dire. Alors Amazon va certainement nous répondre que ça simplifie la vie des consommateurs, comme ça tout de suite avec leur progéniture ils vont pouvoir aller chercher. Bon, nous on dira juste que c'est une continuité dans le sexisme. Alors pour carrefour.fr, j'ai pas été déçue non plus pour le supermarché. Alors sur la page d'accueil, il y a un petit cadre qui dit quel jouet de rêve. Et donc là, il y a le choix entre garçon-fille ou mixte. Hein, quand même, ils nous ont mis le mixte.
Ah bah, c'est quand même pas mal.
Et alors, mais par contre, sur la colonne de gauche, avec des choix, il y a une liste de recherche et tout de suite, il y a les jouets garçons et les jouets filles. Alors je suis allée donc cliquer sur la liste pour les filles et on me propose dans cette liste Barbie,
normal.
Poupée et poupon, ah bah ouais. Personnages articulés, jeux d'imitation, univers thématique qui sont évidemment roses. Hein, parce que le rose, c'est quand même prédominant dans tout ça, c'est quand même important. Donc voilà, Carrefour continue exactement dans la même lignée, puis ne se cache pas, hein, tout ça c'est très apparent. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on vous donne d'autres entrées, mais là il y en a où on vous donne pas d'autres entrées. C'est-à-dire c'est globalement c'est jouets garçons, jouets filles. Alors après si c'est journée de plein air, c'est jouets plein air, c'est genre de choses, mais ça reste quand même plutôt sur cette séparation là. Alors sur la Fnac, je me suis
Parce que là, c'est plus culturel. C'est peut-être moins ciblé, quand même, ce sexisme.
Alors, c'est pareil, aussi, ils ont un petit cadre qui vous permet tout de suite, parce que vous êtes un peu feignants, vous, les parents, tata, taton, grands-parents, tout ça, ça vous emmerde. Hein. Alors, donc, ils vous ont pris pour des gros feignants. Donc, vous avez aussi cette case, trouver le cadeau idéal. Donc, vous avez des catégories, vous choisissez soit par âge, soit par prix, soit par marque, soit par sexe. Et donc, dans le sexe, nous trouvons garçon-fille. Et mixte, quand même, ils nous ont mis aussi la mixité. Mais sur la colonne de gauche, sur la page d'accueil, tout de suite, on trouve aussi jouets pour filles, jouets pour garçons. Ça marche toujours autant. Hein. Et alors, bon, j'ai cliqué toujours pour jouets pour filles, pour voir encore une fois ce que je pouvais m'offrir. Alors, c'est rose hein, sur la FNAC, oulala. Mais alors, je crois que c'est le site où il y a le plus de roses. Ça fait mal aux yeux, ça pique tellement c'est rose. Et alors, c'est pareil, là aussi, j'ai des choix pour mieux filtrer. Donc, c'est des jouets par type. Et on m'explique que donc, je peux choisir une tablette tactile pour filles. Des jouets éducatifs pour filles, des jeux d'imitation pour filles, des poupées univers miniatures. Alors là par contre c'est pas pour filles ou pour garçons, apparemment c'est forcément pour filles. Du maquillage là aussi, c'est forcément pour filles. Des loisirs créatifs, ce n'est pas précisé donc c'est forcément pour filles. Des pulls pour filles, on nous propose aussi. Des déguisements pour filles, des jeux plein air pour filles, des peluches pour filles, des doudous pour filles, des jouets en bois pour filles. Ils ont même été jusqu'à sexualiser les jouets en bois qui sont pas forcément... dans ces catégories-là, voilà. Donc bravo à la FNAC parce que c'est vrai que pour le vendeur dit culturel, ben je crois que c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'avec les spatules, qui moi m'avaient déjà beaucoup marqué hein, pour un vendeur de produits culturels, ben voilà, on se retrouve donc avec ce sexisme quand même bien porté hein, par la FNAC.fr. Ils sont très heureux. Et alors je vous le disais, je suis allée voir donc une chaîne de jouets. Je suis allée voir la Grande Récré. Et alors bon, au début, bonne surprise. Et donc pas d'annonce tout de suite sur le sexe. Je me dis. Oh, c'est chouette, je fouille un peu, les trucs sont plutôt par catégorie au niveau des jouets, des jeux, je trouve ça chouette. Et puis il y a une rubrique qui s'appelle héros. Alors là, je suis retombée sur le cul, bien évidemment. Hein. Oh là là. Alors d'abord, il y a héros pour les tout-petits, mais ensuite, tout de suite, on retrouve héros pour les filles, héros pour les garçons. Donc les héros pour les filles, c'est la Reine des Neiges, Violetta, Barbie... C'est les trucs de Disney princesse, c'est les Hello Kitty, les Cendrillon, vous voyez, c'est ce genre de petites choses. Et les héros pour les garçons, Tortue Ninja, Star Wars, Cars, Spider-Man, Batman, Transformers, Iron Man, Avengers.
Ça y est, tu sais ce que tu vas m'acheter à Noël là maintenant,
voilà.
C'est bon.
T'es bien un garçon, donc d'après le site de La Grande Récré, tu es donc dans la bonne case.
Non mais c'est vrai que je préfère Avengers à Barbie, je dois quand même te l'avouer. Ah merde, moi aussi je participe à ce sexisme.
Non, tu as tout à fait le droit, c'est juste que ça me désole. Ça me désole, ce sexisme, c'est primaire.
C'est quand même moins marqué chez eux du coup.
Ah bah ça, a priori. Mais dès qu'on va dans la section héros, c'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde parle des comics, tout le monde parle des films Marvel, on a des super-héros dans tous les sens. Certes, pour la plupart, ils sont masculins.
Oui,
mais
c'était fait pour les garçons quand même. C'était très sexiste dès le départ.
Oui, mais ça n'empêche pas une gamine de trouver Spider-Man, l'adolescent, tout à fait sympathique, d'avoir envie de jouer avec les personnages de Star Wars, dans lequel on retrouve quand même quelques personnages féminins, enfin, un personnage féminin.
Ah
ok.
Bon, je veux dire, la princesse avec sa coiffe, c'est ridicule.
C'est pas mieux, mais enfin, quand même, il y a un moment, elle est quand même censée être une chef. Peut-être qu'elles ont envie de s'éclater avec Iron Man, moi j'en sais rien, et peut-être que les garçons ont envie, sont fans de Violetta. Peut-être qu'ils sont fans de cette nouvelle chose qui apparaît de partout. Peut-être qu'ils adorent l'histoire de Cendrillon. Voilà, bon, ça n'a pas changé, ce n'est pas nouveau. Hein. Il y en a encore des élus, des sénateurs qui commencent pour cette année 2014 à nous dire il faut changer les règles, il faut obliger. Alors, bon, obliger, moi je veux bien qu'on oblige, mais enfin, c'est le principe. Hein.
C'est les mentalités qui changent.
C'est les mentalités qu'il faut changer, c'est de rappeler, puis c'est peut-être effectivement de faire des campagnes, de rappeler qu'on n'est pas obligé de répondre. Enfin, la campagne, moi je me dis qu'elle aiderait peut-être aussi certains parents à dire à leurs enfants non, je ne veux pas t'acheter une robe de princesse rose avec une baguette magique et une couronne sur la tête, pitié, oui. Ne me force pas à t'acheter ça, pitié, pitié, pitié. Voilà, on a tous besoin d'être accompagnés sur la question, donc c'est un travail collectif. Mais on peut pas dire que le grand commerce nous aide beaucoup. Ils ont plutôt une tendance à nous enferrer dans la chose.
Non mais pour eux, c'est
tout simplement.
Ça leur simplifie la vie énormément et du coup le reste ils s'en foutent.
Voilà. Donc si vous évitez le rose et le bleu, c'est cool à Noël.
Ouais.
Bah sinon en fait le seul choix de couleur c'est rouge. Y a pas bien le choix en fait. J'ai un peu regardé, il y a que ça.
Et le rouge,
un peu de jaune des fois, mais c'est rare, c'est rouge. Ben ouais, c'est voilà, on est quand même obligé de marquer encore les jouets par des couleurs et puis par des personnages et tout ça. Enfin bon, tout ça est encore assez terrible.
On poursuit avec un petit point sur les grands projets inutiles et néfastes, pour l'environnement, en tout cas pour la planète, pour nous, êtres humains, qui tentons de survivre sur cette boule plus ou moins bleue, ou verte, ou vous la mettez de la couleur que vous voulez. En tout cas, sur l'opposition au TGV Lyon-Turin, des actions en justice arrivaient à échéance, et on a appris que 4 opposants italiens ont été condamnés hier mercredi à 3 ans et demi de prison. Alors, ils avaient attaqué un chantier, hein, pour empêcher le chantier de fonctionner. Il y a eu de grosses actions quand même du côté de l'Italie qui ont été assez efficaces. Hein, donc voilà, eux, ils se sont fait arrêter et ils ont été condamnés pour détention d'armes de guerre.
Le cocktail Molotov, là, ouais, l'arme de guerre. Hein, non, mais on va remettre Molotov. Les choses à plomb.
C'est pas une arme de guerre, le cocktail Molotov. Faudrait
qu'on
c'est
pas un char, ils n'ont pas été récupérer ça dans un pays.
Mais bon, ils avaient quand même des armes, des cocktails Molotov, puisque le but était de saboter le chantier. Et le sabotage ne se fait pas avec des poupées Barbie, roses de préférence. Donc voilà, et c'est quand même triste de voir ça. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'ils étaient quand même poursuivis pour terrorisme. La justice a dit, ben non, faut quand même pas non plus pousser le bouchon trop loin. C'est pas des terroristes, c'est des résistants à un projet débile. Mais bon, ils ont
ça
pas
s'appelle
dit
du sabotage.
Voilà. Alors, Notre-Dame-des-Landes. Donc cette fois-ci, c'est plutôt dans le nord, presque en Bretagne. Alors après ça se discute où commence et où finit la Bretagne. Mais pour nous qui habitons Lyon, Nantes est déjà en Bretagne. Et l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est la construction d'un nouvel aéroport, alors qu'il y en a déjà un, pas beaucoup plus grand, pas beaucoup plus intéressant, mais les multinationales du bâtiment notamment seront heureuses. La lutte continue, l'occupation continue. On pensait que ça tomberait à l'eau, notamment Ségolène Royal avait quand même laissé entendre qu'elle allait réétudier le truc, sauf qu'aujourd'hui Monsieur Valls, toujours ministre très à droite, toujours ministre anti-écolo par excellence, a dit qu'il continuait l'œuvre de Jean-Marc Ayrault, l'ancien maire de Nantes, et qu'il allait tout faire pour que l'aéroport sorte de terre et que les travaux commencent mi-2005, grosso modo dans 6 mois à peu près. Donc voilà, il dit faut attendre que les recours en justice soient épuisés et après on attaque, on bousille tout, cette belle région, pour que des avions décolle et atterrissent. Alors vous allez me dire, en même temps, ils ont François Hollande, même Valls, qui tient du discours sur l'écologie. Oui, vous avez bien compris que le discours sur l'écologie, sur le réchauffement de la planète, tout ça, c'est un discours théorique, c'est du pur mensonge. Dans les faits, quand il faut mettre des choses en pratique, on met en pratique des choses anti-écolo, anti-protection de l'environnement. Donc voilà, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Et puis, la dernière grosse ZAD qui a fait parler d'elle, enfin il y en a d'autres maintenant, du coup il y a eu Sivens, etc. Il paraît qu'il y en a 104 en France de lieux de résistance à des projets qui détruisent l'environnement et qui sont inutiles. C'est celle du Center Parcs de Roibon, c'est juste à côté de Grenoble. Donc il y a des actions en justice et on aura la réponse mardi prochain sur la suspension ou non des travaux par rapport à 4 requêtes qui ont été faites par des militants. Donc on attend de voir, on rappelle qu'il y a quand même une cinquantaine d'espèces protégées dont leur habitat va être détruit, ça respecte pas la loi sur l'eau, tout ça, mais bon, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'espoir quand même. Mais réponse, mardi prochain, sur le projet, l'arrêt ou non, des travaux sur le Center Parcs de Roibon.
Un petit mot très rapide sur la FIFA, vous savez, cette Fédération Internationale de Football. Alors, j'aime bien parce qu'ils sont toujours dans la grande transparence quand même à la FIFA. Alors, on a appris la démission de Michael Garcia, qui avait rédigé le rapport sur les conditions d'attribution des mondiaux 2018 et 2022, c'est-à-dire Russie et Qatar. Donc, il a annoncé sa démission hier du poste de président de la Chambre d'enquête de la commission d'éthique de l'organisation. Alors déjà, rien que cette histoire d'enquête éthique, ça, vous voyez, à la FIFA, ça me tord un peu à l'intérieur, parce que, bon, Malheureusement, cette commission d'éthique et de l'organisation, enfin de l'organisation, elle n'a pas l'air de pour l'instant bien fonctionner, puisque l'un de ses membres importants démissionne. Et pourquoi il démissionne ? Parce que il conteste la synthèse qui a été rédigée du rapport, son rapport, puisque globalement la synthèse a conclu, c'était à la mi-novembre, que l'attribution des deux coupes du monde n'avait pas lieu d'être remise en cause. Voilà. Alors que Monsieur Garcia, lui, dans son rapport, a quand même soulevé des éléments douteux. Hein, certes, il n'enfonce pas trop le clou, il dit que ça a des portées limitées, que bon, le mouvement n'est pas complètement corrompu, mais quand même, il aurait bien aimé que son rapport, qui était déjà a priori assez allégé, ne le soit pas encore un peu plus. Alors, ce qu'on peut noter, c'est les réactions. Monsieur Blatter, président de la FIFA, alors j'arrive pas à savoir s'il est vraiment naïf ou vraiment crapuleux.
Ouais, deuxième proposition.
Deuxième proposition, t'as coché.
Quand on arrive à ce niveau-là, c'est qu'on n'a pas été naïf.
Alors pourquoi je dis naïf ? Parce qu'il, lui, s'est dit surpris de la démission de Monsieur Garcia. Vraiment, il comprend pas pourquoi il est vexé et qu'est-ce qui se passe donc ? Mais que tout va bien. Alors il faut savoir que Monsieur Blatter espère avoir encore la place en 2015, puisqu'il est candidat pour un cinquième mandat à la présidence de la FIFA. Donc voilà, alors lui, il est surpris, hein, il est toujours en... naïf, Monsieur Blatter. Et puis, il y en a un autre qui pourrait nous faire aussi beaucoup rire, c'est Monsieur Platini, Michel Platini, qui, lui, brigue un troisième mandat à la tête de l'UEFA. Alors, Monsieur Platini, lui, se pose toujours un petit peu en chevalier du foot, hein. C'est-à-dire que il veut amener du nettoyage, il veut se battre contre la corruption. Lui aussi, il est très naïf parce qu'il... finalement, il y avait cru quand même à cette histoire au Qatar. Il comprend pas bien où est le problème. Alors nous, bon, on s'est toujours dit un peu ici que ne doit pas être quand même bien compétent, Monsieur Platini, pour penser qu'on peut jouer au football au Qatar sans avoir un peu chaud sous les aisselles.
En plein mon doute.
Mais bon, après, hein, ça, c'est un avis personnel de le penser un peu incompétent, ou alors c'est qu'il est corrompu comme les autres. Je ne sais pas, Michel, ce que tu vas choisir. Bon, pour lui, il dit quand même que la démission de Monsieur Garcia, c'est un nouvel échec pour la FIFA. Bah, ça, on ne lui le fait pas dire. Bon, lui, il dit aussi qu'il était favorable à la publication du rapport d'enquête. Mais enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, ce rapport, il avait quand même une portée assez limitée au niveau des accusations. Donc, ça soulevait un peu des choses, mais pas grand-chose. Mais étant donné que à la FIFA, il n'y a aucune transparence, ça mettait peut-être un petit peu en avant une possibilité pour certains, ça permettait une possibilité à certains de mettre un peu le pied dans la porte, d'entouvrir un peu les choses. Mais alors, est-ce que si un jour il y a du ménage à la FIFA, ben ça va prendre du temps, parce que c'est une vraie toile d'araignée, hein, cette affaire. Ça va jusqu'au fédé local, corruption à l'aide partout, à tous les niveaux, et que ben on n'est pas prêt d'y faire du ménage là-dedans, surtout qu'a priori, ils n'ont pas l'air de vouloir.
Alors, on va rester avec les menteurs, avec Landra, qui a priori s'est quand même fait bien pincé pour un beau mensonge. En tout cas, on aura la réponse officielle si ce mensonge est trop gros pour que la justice laisse tomber. Les faits. Donc en 94, depuis 94, Landra essaye d'installer à Bure, dans la Meuse, un site d'enfouissement de déchets. Au début, c'était un laboratoire d'essais, puis maintenant, hein, ils assument un laboratoire de déchets nucléaires haute et moyenne activité à longue vie. Donc ça sera sous terre à peu près à 500 mètres. Or, il y a des règles, notamment la règle fondamentale de sécurité de 91, qui dit qu'on ne doit pas enfuir de déchets radioactifs à l'aplomb d'une source géothermique qui peut présenter un intérêt particulier, c'est-à-dire qu'un jour, l'être humain aura peut-être envie de percer pour atteindre cette source géothermique, pour se chauffer, etc. Pourquoi c'est ça ? Pourquoi il y a cette règle ? C'est parce que vous rappelle que le but de mettre ces déchets là-dedans, à haute et moyenne activité, c'est de les laisser enfermer pendant des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'années. Et du coup, il ne faut pas que l'être humain soit tenté d'y retourner un jour. Hein, on sait qu'on va oublier ce truc enterré, parce qu'il n'y a aucune civilisation qui a survécu suffisamment longtemps à l'échelle de 50 000 ou 100 000 ans. Et pourtant, ce truc doit rester fermé après pendant cette période-là. Donc du coup, il y a cette règle qui dit, bah non, il faut empêcher, il faut mettre dans un endroit où, quand l'être humain aura oublié qu'il y a un truc dangereux là-dessous, il n'aura pas envie de percer et de se prendre de la radioactivité en pleine gueule. Alors donc Landra avait fait des études en disant mais non c'est bon, donc il y a une notion de débit hein, pour calculer si c'est intéressant au niveau de la géothermie, on est très très loin des 150 à 400 mètres cubes par heure nécessaires, nous Landra on a mesuré 5 mètres cubes par heure, donc oui on peut mettre ce laboratoire.
Alors, c'était un peu louche tout ça. Il y a eu des contre-études, notamment de différents laboratoires, notamment GeoWatt, hein, qui est un expert en géothermie en Suisse. Et eux, ils ont calculé que pas du tout. Hein, on pouvait monter facilement à ces centaines de mètres cubes par heure et que ce serait d'ailleurs très intéressant, économiquement exploitable, cette géothermie. Du coup, mince, là, l'ANDRA... Ben, ils avaient un peu menti, alors ben, ils n'ont pas fait les essais correctement, ils n'ont respecté aucune règle. Bon, bien évidemment, c'est volontaire, hein, parce que quand on fait un truc comme ça, on sait faire, hein, on le fait faire par quelqu'un qui sait faire. Donc voilà, et ils passent, donc il y a eu moult associations, notamment Mirabel, Lorraine Nature Environnement, Burstop 55, le réseau Centenie Nucléaire, voilà, plein de gens qui ont déposé plainte, et ça sera le 5 janvier, à 15h, le tribunal de grande instance de Nanterre va regarder cette assignation pour faute déposée contre l'ANDRA. Alors, même si c'est flagrant, là, on sait qu'ils ont menti, que c'était pour but de construire ce truc que personne ne veut et qu'il faut mettre quelque part, et en France, il n'y a pas de zone vraiment possible pour un enterrement de déchets radioactifs comme ça. À mon avis, ils ne vont pas être condamnés puisque la justice reste comme le bras armé de l'État, notamment sur le nucléaire. Enfin, on verra ça au 5 janvier. Oula, il reste 1 minute 30. Agenda. Ah, c'est ça ? On a fini ? Oui. Donc agenda, ce soir à 20h, donc dans une minute, ça se passe à la MJC de Saint-Jean. Vous savez, il y a plein de projections avec, de films ou de documentaires avec des débats. Ce soir, c'est La Vague, film allemand. Donc voilà, ce soir à 20h. Demain soir à 20h, projection du film de Pablo Trapero qui s'appelle Leonera sur la problématique carcérale, hein, qui est le thème de l'émission suivante, qui arrive dans 30 secondes. Cette projection commencera à 20h30. Les portes de la librairie La Plume Noire ouvriront à 20h pour permettre aux gens de discuter, de boire des coups, avant de passer au film et au débat. La Plume Noire, c'est 8 rue Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse. Et un petit peu plus loin, ce sera samedi soir à l'Atelier des Canulars, une anti-Noël party, une anti-Christmas party, voilà, pour faire la fête contre Noël.
Moi, je voulais juste souhaiter un joyeux Noël à tous les travailleurs et travailleuses pauvres et précaires. Joyeux Noël, vous allez gagner 8 centimes bruts de plus par heure travaillée. Joyeux Noël à vous, bon courage. Alors, ouais, c'était mon coup de gueule, voilà. Merde, fait chier quoi.
Rendez-vous demain 19h pour le prochain Canu Info. Nous, on revient peut-être pas la semaine prochaine, parce que ça tombe très très mal. En tout cas, attention, c'est parti, nous sommes en direct de Radio Dio. C'est la diffusion de l'émission anticarcérale de Radio Dio par Radio Canu.
Ciao.
Vous allez rencontrer des psychiatres.